France Culture, il est midi et demi. Tout de suite, le journal Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. L'augmentation observée depuis le début de l'été du nombre de cas de contamination au coronavirus continue de s'accélérer en France. Hier soir, le Conseil d'État a entériné en grande partie les arrêtés préfectoraux imposant le port du masque généralisé. Et dans ce contexte, eh bien, nous nous intéresserons aux anti-masques. Qui sont-ils ? Une première étude publiée ce matin par la Fondation Jean Jaurès ébauche le portrait de ces militants atypiques.
Autre polémique, celle sur le futur réseau télécom de 5e génération, 5G.
Oui, deux rapports sont attendus aujourd'hui sur ces possibles effets, à la fois sur la santé et l'environnement. À l'étranger, près de 300 personnes, dont un député, ont été arrêtées hier par la police de Hong Kong, et ce alors que des milliers de militants pro-démocratie étaient descendus dans la rue pour manifester contre le report des élections législatives.
Et toujours dans votre journal, Thomas, direction l'Inde également.
Depuis ce matin, le sous-continent est devenu le deuxième pays du monde après les États-Unis, recensant le plus grand nombre de cas de Covid-19. L'invité de la rédaction dans une vingtaine de minutes aujourd'hui, nous recevrons Jeanlin Lacapelle, député européen du Rassemblement National. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera bien sûr la grande table des idées.
En mars dernier, juste avant le confinement, elle publiait un livre prémonitoire, Économie utile pour des temps difficiles. Et c'est peu dire qu'aujourd'hui, on a aussi besoin des économistes, de cette parole-là, de ce savoir-là, de la pauvreté au plan de relance annoncé. Le point de vue de notre invitée, l'économiste prix Nobel, Esther Duflo. Elle sera avec nous à partir de 12h55.
Merci et à tout à l'heure. Avec près de 25 000 nouveaux cas en seulement 3 jours et des indicateurs qui continuent globalement de se détériorer, l'épidémie de Covid-19 continue donc de gagner du terrain en France. Après un pic à près de 9 000 nouveaux cas vendredi dernier, un record depuis le début de l'épidémie, 8 500 cas environ ont encore été confirmés samedi et un peu plus de 7 000 hier. En conséquence de quoi, le gouvernement a décidé de placer 7 nouveaux départements en zone rouge, laquelle couvre désormais plus du quart des départements. Ce qui n'empêche pas, dans le même temps, les autorités d'envisager de réduire la période d'isolement des malades et des cas contacts. De quoi, évidemment, brouiller quelque peu le message. Alors ce débat entre décisions politiques ou gestes de bon sens n'est en réalité pas nouveau. On se souvient par exemple qu'en début d'épidémie, dans un contexte de pénurie de masques, les autorités assuraient que celui-ci était inutile pour toute personne dans la rue. Or hier soir, le Conseil d'État a lui justifié au contraire le port du masque rendu obligatoire dans les communes comportant plusieurs zones à fort risque de contamination. Et pourquoi ? Parce que pour limiter la propagation du virus, outre la distance physique et le lavage des mains, eh bien le port du masque est à présent considéré comme une mesure efficace. Ce que nient évidemment eux les anti-masques qui le jugent inutile, voire dangereux. Alors qui sont justement ces fameux anti-masques ? Dans une première étude publiée ce matin, la Fondation Jean Jaurès ébauche le portrait de ces militants atypiques caractérisés par une défiance abyssale envers les institutions, mais aussi un niveau de diplôme plus élevé que la moyenne, sans oublier Aurélie Kiefer, une appétence pour les thèses complotistes.
Oui, l'un des arguments forts des anti-masques, c'est qu'il n'y a pas ou plus d'épidémie, les gouvernements mentiraient et le port du masque serait imposé dans le but d'asservir la population, de la priver de sa liberté. L'étude de la Fondation Jean Jaurès met en évidence la méfiance extrême vis-à-vis des institutions et des responsables politiques. La confiance en Emmanuel Macron s'élève, si l'on peut dire, à 2%. Au premier tour de l'élection présidentielle en 2017, les personnes interrogées exprimaient d'ailleurs déjà ce rejet des élites. Plus de 40% ont refusé de choisir un candidat et ceux qui se sont prononcés ont privilégié les candidats anti-système, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Ils adhèrent volontiers aux théories populistes, au peuple de reprendre la main sur les élites et ils adoptent volontiers des positions libertaires. Sans surprise, ils se méfient des médias classiques. Leur première source d'information est Internet à 78% et sur les réseaux sociaux se développe un entre-soi qui les entretient dans leurs opinions et croyances. Bien que d'un niveau d'éducation assez haut, bac plus 2 en moyenne, ils se soucient peu du discours dominant dans la communauté scientifique. 87% ont une bonne opinion du professeur Didier Raoult et le soutiennent. Et à 90%, ils pensent que le ministère de la Santé et l'industrie pharmaceutique sont de mèche pour nous cacher la réalité sur la nocivité des vaccins. Logiquement donc, 94% des anti-masques l'affirment, le jour où un vaccin anti-Covid sera disponible, ils refuseront de se faire vacciner. Pour la Fondation Jean Jaurès, cette étude nous montre en creux la fragilité de nos démocraties, car dans ces circonstances exceptionnelles engendrées par la crise sanitaire, la défiance latente vis-à-vis des institutions se renforce chez des personnes parfois très bien intégrées socialement, une défiance alimentée par les tâtonnements des gouvernements.
quand le port du masque redevient obligatoire et en permanence. Au tribunal de Paris, la mesure a finalement été rétablie ce matin par la cour d'assises spéciale chargée de juger les attentats de janvier 2015 en France. La semaine dernière, plusieurs avocats s'étaient émus de cette obligation, tant d'ailleurs du côté de la défense que des parties civiles. Mais depuis aujourd'hui, donc, la dérogation qui prévalait encore en fin de semaine n'est plus d'actualité. Alors ce matin, le procès a repris avec la chronologie des faits, en commençant par la salle de rédaction de Charlie Hebdo. Compte rendu d'audience signé Florence Turmin.
La cour a visionné ce matin des images terribles, celles des photos réalisées par les enquêteurs dans les locaux de Charlie Hebdo après la tuerie. Photos muettes, ponctuées des explications du témoin présent à la barre, Christian Do, l'ancien chef de la section antiterroriste de la brigade criminelle. Explications techniques nécessaires, le ton est le plus neutre possible. Un technicien navigue sur les différentes zones et l'on pénètre dans le vestibule, puis la salle de rédaction. Les blessés ont été évacués, ce sont les photos de la police, mais les corps sont restés dans l'entrée. Celui du correcteur Mustapha Ourad, celui de Franck Brinsolaro, l'officier attaché à la sécurité de Charbes, puis les corps tombés les uns sur les autres dans la salle de réunion. Tinius, Elisa Kayat, Cabu, Volinsky, Philippe Honoré, le président a énuméré tous les noms des victimes lentement, les uns après les autres. Ce matin, Christian Do, lui, s'attarde sur la manière dont ils ont été abattus. Pas une fusillade, mais une véritable exécution, tir en pleine tête ou en plein cœur. La tuerie aura duré 1 minute 49. Une autre pièce encore, on découvre deux autres corps. L'invité de Charlie, ce jour-là, Michel Renaud et Stéphane Charbonnier, dit Charbe. Celui qui, détaille l'enquêteur, a reçu le plus d'impact. 7 au total, 3 tirs de Kalachnikov, précise le témoin, tirés à moins de 10 cm, ce qui explique la présence de sang qui a pu atteindre le plafond. Et l'image reste figée à l'écran sur ce corps pendant que le fonctionnaire poursuit. Plusieurs personnes ont quitté la salle d'audience. Les autres visages restent figés, eux aussi, dans un silence total.
Que sait-on véritablement des possibles effets de la 5G sur la santé? Pas grand-chose a priori, c'est donc pour tenter de combler cette lacune scientifique, alors même que le gouvernement a déjà mis aux enchères les fréquences 5G entre les opérateurs, que l'État a mandaté 4 inspections ministérielles. Celles-ci sont censées remettre leur rapport aujourd'hui, sauf qu'on ignore encore quand ce rapport sera rendu public. En attendant, les associations qui militent donc contre la 5G ont, elles, été auditionnées par les inspecteurs le 28 août dernier. Elles estiment que ce rapport rédigé en 2 mois seulement ne pourra pas répondre à toutes les questions. Je propose d'écouter Sophie Pelletier, présidente de l'association Priartem et elle-même électrosensible. Elle explique à Tara Schlegel pourquoi ce travail d'inspection la laisse un peu perplexe.
En fait, c'est une mission qui est arrivée un petit peu comme un cheveu sur la soupe, hein, suite à une séquence cet été où la Convention citoyenne sur le climat a recommandé un moratoire sur la 5G, le temps de justement d'évaluer son impact sanitaire et environnemental. Et donc, c'est quelque chose qui est un petit peu sorti du chapeau au niveau des ministères pour, faire un peu semblant de se poser des questions, alors que, franchement, 2 mois en plein été, ça permet pas de répondre décemment aux questions légitimes qui sont posées par les citoyens.
Mais est-ce que vous, Priartem, vous trouvez que les aspects sanitaires sont sous-évalués ?
En France, on se base pour l'instant sur le dernier rapport de l'agence sanitaire, de l'ANSES, qui date de 2013. Donc avec la bibliographie qui s'est arrêtée en 2012. Donc entre 2012 et 2020, ça fait 8 ans de recherche et de publications scientifiques qui pour l'instant n'ont pas été prises en compte. Donc là par exemple sur cet aspect cancer, l'ANSES, donc l'agence sanitaire, vient de recommencer un travail d'expertise de cette question pour savoir mettre à jour ces données sur radiofréquence et cancer, mais ne rendra ses conclusions définitives que d'ici fin 2022. Donc vous voyez, si la 5G se déploie entre-temps, on aura encore exposé les gens un peu plus, mais on aura les informations que beaucoup plus tard.
Voilà, Sophie Pelletier, présidente donc de l'association Priartem, elle répondait à Tara Schlegel. La France est-elle malade de son insécurité ? Oui, répond le ministre de l'Intérieur, interrogé dans les colonnes du Parisien, Gérald Darmanin, accusé depuis plusieurs semaines déjà de vouloir reprendre à son compte le vocabulaire de l'extrême droite, en parlant notamment d'ensauvagement de la société. Pierre Neveu, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors, seule certitude, La sécurité figure bel et bien aujourd'hui parmi les priorités du gouvernement. Ce sera même le thème principal du séminaire gouvernemental prévu mercredi. Et on pourrait également citer le projet de loi à venir contre les séparatismes. Enfin, et si l'on se projetait encore un peu plus loin, Pierre, eh bien, on ne tarderait sans doute pas à percevoir là le prochain sujet de bataille à l'élection présidentielle.
Et oui, la lutte contre l'insécurité, c'est le thème de cette rentrée politique. Un thème que l'exécutif ne veut pas laisser aux Républicains ni au Rassemblement national. Et c'est parce qu'il y a eu des agressions ces dernières semaines dans les transports publics, sur la voie publique, que le nouveau ministre de l'Intérieur s'est emparé de la question. Cela se traduit par une offensive médiatique de Gérald Darmanin et de Marlène Schiappa, ministre déléguée à la citoyenneté, avant un séminaire gouvernemental ce mercredi qui sera consacré à la sécurité et plus particulièrement, vous l'avez dit, au séparatisme, à la radicalisation. Que dit le ministre aujourd'hui ? Eh bien, il faut mettre du bleu dans les rues, comprenez par là des policiers et des gendarmes, pour, dit-il, rassurer et protéger les honnêtes gens. On remarquera le changement sémantique du ministre qui ne parle plus d'ensauvagement, mais qui s'adresse plutôt à la France qui se lève tôt. Autre clin d'œil à son prédécesseur place Beauvau, Nicolas Sarkozy, quand Gérald Darmanin annonce présenter un bilan statistique aux Français. Chaque mois, il détaillera les résultats de la police en matière de lutte contre les stupéfiants, de violences conjugales, comme seront comptabilisées les heures de patrouille sur la voie publique et les interventions sur le thème de l'immigration et de l'asile. Une politique du chiffre qui, en son temps, avait irrité les policiers et leurs représentants. Gérald Darmanin évoque, lui, une politique du résultat. On le voit, le président de la République, comme le gouvernement, s'empare du sujet de la sécurité pour ne pas laisser la droite prospérer sur cette thématique, car il y a l'enjeu 2022 en ligne de mire. Le chef de l'État doit reconquérir un électorat de droite, toujours en mal de chef, alors que Marine Le Pen, déjà en campagne, renvoie dos à dos le gouvernement et la droite sur la faillite de leur politique en la matière.
Merci Pierre Neveu. L'Inde est devenue aujourd'hui le deuxième pays du monde, après les États-Unis, recensant le plus grand nombre de cas de Covid-19 avec 4,2 millions d'infections depuis le début de la crise sanitaire. La seconde nation la plus peuplée de la planète dépasse désormais le Brésil. Des chiffres inquiétants qui n'ont toutefois pas empêché le métro de reprendre du service après des mois d'arrêt. Notons que l'Inde est aussi le pays où l'épidémie progresse le plus rapidement, avec plus de 90 000 cas recensés dans les 24 dernières heures. Et alors même que le sous-continent donc tente de relancer tant bien que mal son activité économique. Correspondance à New Delhi, signée Combastin.
Avec un record mondial de 90 632 nouveaux cas détectés hier, le sous-continent dépasse désormais le Brésil, deuxième pays le plus touché au monde. Il n'aura fallu que 13 jours à l'Inde pour passer de 3 à 4 millions de cas de coronavirus et les experts projettent 7 millions de personnes infectées d'ici à la fin du mois. Dans le détail, les états du Maharashtra, de l'Andhra Pradesh, du Tamil Nadu et du Karnataka sont les plus infectés. De grandes villes telles que Bombay et Bangalore, qui avaient vu la croissance de l'épidémie ralentir, s'inquiètent désormais de son repart à la hausse. Plusieurs phénomènes peuvent expliquer cette circulation du virus. L'Inde, dont l'économie est à genoux, tente de relancer son activité et a rouvert ses métros. Beaucoup des travailleurs migrants qui avaient quitté les mégapoles lors du confinement sont ainsi de retour sur les chantiers ou dans les usines. Vertigineux, ces chiffres pourraient cependant sous-estimer encore la réalité de l'épidémie. En cause, le décalage avec le taux d'infection observé lors d'études aléatoires sur le terrain. La dernière effectuée dans l'état de l'Haryana et ses 25 millions d'habitants indique qu'au moins 8% de la population aurait contracté le virus. Lueur d'espoir, seulement 71 000 personnes sont pour l'instant mortes du coronavirus en Inde, des chiffres qui, même s'ils peuvent être sous-estimés, placent le sous-continent parmi les pays au taux de mortalité le plus faible.
Face à l'érosion croissante des droits civiques sur le territoire autonome, les militants pro-démocratie ont fait leur grand retour en masse hier dans les rues de Hong Kong. Des milliers de personnes ont répondu présents aux appels à manifester lancés en ligne pour protester contre le report du scrutin législatif. Celui-ci devait se tenir hier et l'opposition semblait bien placée pour gagner une majorité au Parlement, du moins avant que la chef de l'exécutif local, Carrie Lam, nommée par Pékin, ne décide de le reporter d'une année officiellement pour cause de coronavirus. Au final, près de 300 personnes, dont un député, ont été arrêtées lors de ce rassemblement, l'un des plus importants donc depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la sécurité nationale. Récit de cette journée avec notre correspondante Florence de Changy.
Ce sont des scènes chaotiques et violentes qui ont à nouveau eu lieu dès le milieu de l'après-midi dimanche et jusque tard dans la soirée. Des scènes comme Hong Kong en a vu des centaines l'an dernier, mais nettement moins depuis l'adoption de la loi de sécurité nationale le 30 juin. La police avait déployé 2000 hommes, la plupart casqués et en tenue anti-émeute, vert kaki, mais nombre de policiers étaient aussi en civil ou même en tenue de manifestants, shorts et t-shirts, mais armés de gaz poivre ou de bâtons rétractables. Les manifestants ont scandé « Je veux voter ». Ils estiment que le gouvernement leur a confisqué leur droit de vote dans les élections législatives qui devaient avoir lieu hier et où l'opposition pro-démocratie semblait en position de force pour emporter la majorité au Parlement. Les manifestants ont également exprimé leur inquiétude sur le sort des 12 jeunes qui ont été interceptés par les gardes-côtes chinois il y a 2 semaines alors qu'ils tentaient de fuir par la mer vers Taïwan et dont on est sans nouvelles depuis. D'autres participants ont indiqué qu'ils étaient là pour montrer que la nouvelle loi de sécurité nationale ne leur faisait pas peur. L'interpellation brutale d'une fillette de 12 ans qui a été mise à terre par une meute de policiers alors qu'elle essayait de s'enfuir d'une scène de confrontation a ému et scandalisé les réseaux sociaux.
Après plusieurs mois d'une interruption prolongée par la pandémie, la justice britannique reprend aujourd'hui et pour plusieurs semaines l'examen de la demande d'extradition de Julian Assange réclamée par les États-Unis. La justice américaine reproche, je vous le rappelle, au fondateur de WikiLeaks d'avoir diffusé plus de 700 000 documents sur les activités militaires et diplomatiques de Washington. C'était en 2010, une divulgation pour laquelle l'Australien de 49 ans encourt une peine d'enfermement de 175 ans. Autant dire que ce rendez-vous s'annonce donc aussi crucial que discuté. Crucial tout d'abord car la justice britannique devra déterminer si la demande américaine d'extradition qui lui est soumise n'est pas disproportionnée. Et puis discuté ensuite tant l'homme fait encore figure aujourd'hui d'ardent défenseur d'une transparence controversée, héros traqué de la liberté d'informer pour les uns, dangereux propagateur de secrets d'État pour les autres, quoi qu'il en soit. Et avant la reprise à Londres de l'audience, les soutiens de Julian Assange avaient appelé à une manifestation dès ce matin de devant la cour criminelle. C'est un reportage signé de notre correspondant Richard Place.
Sur une scène posée sur le trottoir, les speakers s'enchaînent. Défenseurs des droits de l'homme ou journalistes en vue, ils viennent prendre la défense de celui qui est jugé quelques mètres plus loin. Le père de Julian Assange est également venu prononcer quelques mots devant une foule conquise. Stewart est venu de Luton, une heure de trajet, juste pour porter sa petite pancarte au pied du tribunal.
C'est très très important pour la liberté de parole, la presse libre. Nous devons soutenir Julian Assange. C'est une honte ce qui lui arrive. Je veux lui dire mon soutien. On devrait lui donner le prix Nobel de la paix, pas le mettre en prison. Il est traité comme le pire des terroristes. Je ne peux pas le croire.
Certains manifestants sont grimés, comme cette jeune femme qui porte la robe des juges britanniques et un masque en forme de tête d'âne. Ils n'ont pas de mots assez durs contre la justice anglaise et la plainte américaine, et ils affirment qu'ils reviendront chaque jour que durera ce procès pour faire du bruit, pour attirer l'attention sur celui qu'ils décrivent comme un héros.
On reste à Londres, doit s'ouvrir cette semaine la 8e séance de pourparlers sur le Brexit. Le gouvernement britannique a d'ores et déjà choisi de faire monter la pression et menace de ne pas appliquer le traité sur sa sortie de l'UE si un accord de libre-échange n'est pas conclu d'ici au 15 octobre. L'invité de la rédaction aujourd'hui, Jeanlin Lacapelle, député européen Rassemblement National au lendemain du discours de rentrée de Marine Le Pen. Bonjour monsieur.
Bonjour.
À mes côtés pour vous interroger, Stéphane Robert. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Une première question, j'évoquais dans ce journal la compétition à l'œuvre aujourd'hui sur le thème de la sécurité au sein de la majorité, mais aussi chez les Républicains, sans oublier votre formation politique. Est-ce que, dans la perspective de la présidentielle, vous craignez de vous faire voler en somme votre... du moins l'un de vos sujets de prédilection, ou bien est-ce que vous vous réjouissez au contraire que le plus grand nombre se rallie à vos idées ?
Bien sûr. Mais vous savez, je crois que la France traverse aujourd'hui deux crises, une crise économique, on en a déjà longuement parlé, et on estime que le plan de relance d'ailleurs du gouvernement est bien faible par rapport aux problématiques qu'aujourd'hui rencontrent nos salariés, nos compatriotes et aussi nos entreprises. Et puis il y a une crise sécuritaire. Et je crois que tout le monde l'a compris, avec des chiffres aujourd'hui qui sont qui ne peuvent pas être contredits, quels que soient les effets de communication de Monsieur Dupond-Moretti ou de Monsieur Darmanin, puisqu'il y a une agression gratuite toutes les 44 secondes en France. Il y a eu 869 homicides en 2019, soit 78 de plus. Il y a une attaque au couteau, il y en a 120 par jour d'attaques au couteau. Et on a vu ce week-end le drame terrible à la gare du Nord et ce que cela pouvait produire. Donc il y a aujourd'hui un problème de sécurité en France, bien sûr. Il faut y apporter des solutions. solution. Ça doit passer par une solution politique, par une solution pénale, par une solution policière, par une solution carcérale et par une solution migratoire. Donc il y a tout un ensemble de solutions que notre présidente a profité ce week-end à Fréjus de notre université d'été pour justement exposer quelles seraient les propositions que nous mettrions en place. Il faudrait que M. Darmanin s'en inspire plutôt que de faire ses effets de communication et de tweeter en permanence son émotion.
Est-ce que le fait que Marine Le Pen mette particulièrement en avant cette thématique-là, je crois que ça a été 30 minutes de son discours, est-ce que ça veut dire qu'on est déjà en campagne pour 2022 ?
Mais la campagne a commencé, il faut sortir de l'hypocrisie. Marine Le Pen a annoncé sa candidature et a dit qu'elle souhaitait préparer et être en campagne relativement tôt parce qu'elle estimait que cette élection présidentielle était majeure, bien sûr, et qu'il fallait s'y préparer. Emmanuel Macron est en campagne, nous le savons aussi. Il ne l'a pas encore annoncé, mais tout le monde a bien compris qu'il était en campagne. Et puis, vous savez, la sécurité, au-delà de la sémantique, je le disais, il y a des chiffres, il y a une réalité. Et les Français attendent de notre part, bien sûr, qu'on apporte des solutions. Donc je disais qu'il faut aujourd'hui renforcer les effectifs policiers et que c'est important aujourd'hui qu'on puisse aussi renouveler du matériel vétus dans les policiers, qu'ils aient le respect également du peuple français. Il faut les rassurer, il faut reconnaître leur mission et il faut qu'ils soient respectés. Il faut une réponse, je le disais, pénale. Ça veut dire qu'il faut que M. Dupond-Moretti cesse d'être l'avocat des délinquants et des criminels, qu'il défende enfin les victimes françaises qui attendent une justice, qui attendent que les lois soient appliquées, strictement appliquées, qu'on cesse les réductions de peine, puisqu'on a vu un multi-récidiviste, il y a quelques jours, violer et tuer une jeune fille. Donc il faut maintenant que ce laxisme depuis 40 ans qui nous tue, eh bien, cesse, et qu'enfin, eh bien, l'État devienne efficace pour traiter ces problèmes-là.
Encore un mot sur 2022. Vous avez peut-être vu ce week-end dans l'hebdomadaire Le Point l'interview de Robert Ménard, maire de Béziers, qui estime que Marine Le Pen ne peut pas gagner la présidentielle parce que notamment elle est trop gauchisante sur les questions économiques et sociales. Comment est-ce que vous jugez, expliquez cette prise de distance de quelqu'un que vous avez soutenu ?
Oui, enfin, je crois qu'il a eu, bien sûr, il a profité de notre soutien. Monsieur Robert Ménard, il ne parle jamais avant les élections, puisqu'il suscite et il essaie bien évidemment de profiter des voix des électeurs du Rassemblement National, et on l'entend toujours après les élections. Bon, on est habitué avec Robert Ménard, mais Robert Ménard, ce n'est pas le Rassemblement National. Donc Marine Le Pen est notre candidate, elle est la seule à pouvoir rassembler, et je crois que cette élection présidentielle va jouer autour de deux blocs, et tout le monde a bien compris. Quand vous entendez Monsieur Estrosi aujourd'hui appeler à former un grand bloc entre La République En Marche et Les Républicains, vous avez compris qu'aujourd'hui, il y a en France le bloc des mondialistes, qui est arrivé à son terme aujourd'hui et qui a démontré son efficacité. Et puis vous avez le bloc qui, derrière Marine Le Pen, soutient aujourd'hui ni droite ni gauche, soutient tous les gens qui ont envie de retrouver un patriotisme et qui ont envie de retrouver tout simplement un retour au localisme. Je crois qu'aujourd'hui, les leçons de la crise sanitaire auraient dû être tirées. On nous a parlé beaucoup de souveraineté, on nous a parlé de retour au localisme. Et en fait, dans le plan d'urgence que le gouvernement a présenté, il n'y a rien de tout cela, ni pour les PME, ni pour la localisation.
En tout début d'interview, vous avez cité deux fois Éric Dupond-Moretti. En quoi est-ce qu'il est pire que Christiane Taubira ? Et est-ce que c'est le nouvel ennemi du Rassemblement National ?
Non, vous savez, c'est lui qui, il y a quelques années, avait dit que le Front National, qui s'appelait à ce moment-là comme ça, devait être dissous. Donc c'est lui qui a décidé d'en faire un adversaire. Mais M. Dupond-Moretti est ministre de la Justice, il est garde des Sceaux. Donc il a une mission qui est tout simplement aujourd'hui de défendre les Français et d'assurer la justice. Donc on lui demande de faire appliquer les lois, on lui demande pas de faire de politique, on lui demande pas d'être militant politique d'extrême gauche. On lui demande simplement d'avoir un devoir de neutralité et de ne pas tricher avec les chiffres. Et de régler les problèmes de sécurité qui sont loin d'être un sentiment, comme il le dit.
En même temps, quand on regarde les chiffres publiés régulièrement par le ministère, ils ne sont pas si clairs que ça. Il y a des chiffres qui montrent qu'il y a une augmentation, notamment coups et blessures volontaires, ça augmente, les violences sexuelles, ça augmente. En revanche, les vols violents sans armes, ça baisse, les vols avec armes, ça baisse. Il y a d'autres statistiques qui montrent que les chiffres sont relativement stables. Est-ce qu'il n'y a pas un discours politique?
Vous savez, le sondage de l'IFLOP ce matin était révélateur. 70% des Français estimaient d'ailleurs que le terme ensauvagement était justifié. Et 70% des Français estiment que le bilan justice-police du gouvernement est inefficace. Mais vous avez cité la réalité des chiffres. Quand vous parlez des cambriolages, on omet de dire qu'on a retiré des statistiques des cambriolages. Les cambriolages de résidences secondaires, les cambriolages de locaux privés et les cambriolages d'établissements publics. Alors si vous rajoutez cela, vos statistiques sont plus les mêmes. Donc aujourd'hui, le gouvernement joue avec les stats, il fraude avec les statistiques. Nous, on attend tout simplement aujourd'hui qu'il fasse son boulot, qu'il soit efficace, et les Français ne sont pas dupes, vous savez. Ils savent qu'on leur ment, il y a un déni aujourd'hui de réalité. Mais écoutez, il est temps que le gouvernement, maintenant, fasse son boulot. Il a été élu pour cela, Emmanuel Macron. Mais écoutez, pour l'instant, il fait tout le contraire de ce qu'il avait promis. On a un problème carcéral aussi que j'évoquais tout à l'heure. Vous savez, il avait promis 20 000 nouvelles places de prison. Eh bien, elles ne sont pas créées. Donc, il sera probablement à l'issue de son mandat, eh bien là aussi, en retard par rapport aux promesses qu'il avait tenues. C'est bien dommage, mais c'est les Français qui en pâtissent aujourd'hui.
Merci Jeanlin Lacapelle, député européen du Rassemblement National, je le rappelle, d'avoir répondu à notre invitation.
Merci beaucoup.
Merci également à Stéphane Robert. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi ensoleillé sur la majeure partie de l'Hexagone, à l'exception de quelques passages nuageux au nord de la Seine et sur les bords de la Manche. Des averses pourront également se déclencher localement sur les reliefs de l'Est. Quant aux températures, elles afficheront entre 20 et 30 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet et à 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.